Dan Gagnon pour le podcast tout seul du lundi 6 avril. J'espère que vous avez passé un week-end intéressant. Il y en a qui disent que la semaine, le week-end, maintenant, c'est plus pareil. Moi, c'est absolument pas vrai. Il y a quoi, à peu près une quinzaine d'années de scolarité qui t'ancre très profondément dans le corps le fait que le vendredi soir, c'est quelque chose de spécial. Tu vois. Donc, même si je fais la même chose à tous les jours, le week-end, c'est... Soit je me sens moins coupable de glander ou de boire, j'en sais rien. Mais voilà, ça fait encore une petite différence. Il y a ces marqueurs-là qui, je crois, ne partiront jamais dans mon cas. Aujourd'hui, on est le 6 avril, c'était la date de naissance. C'est toujours la date de naissance de ma grand-mère, mais elle est décédée depuis une dizaine d'années, plus ou moins. Et la meilleure façon de rendre hommage, c'est toujours de raconter une histoire. Et ma grand-mère, ce que j'ai toujours aimé avec elle, c'est qu'elle avait ces deux côtés-là. Le côté grand-maman, genre, si tu m'amènes des fruits, je vais te faire une tarte avec. Souvent, on lui amenait genre des bleuets, des framboises, de la rhubarbe. Et ma grand-mère voulait payer ma mère pour les fruits qu'on avait été chercher, qui était dans une ferme où mon père avait son cheval, en gros. Et ma mère refusait toujours de prendre l'argent. Je les voyais, genre, prends le 5$. Non, oui, non. Et je ne comprenais pas. J'avais 8-10 ans. Qui refuse de l'argent? L'argent, c'est avec ça que tu achètes les choses. Plus tu en as, plus tu peux acheter de choses. Et j'essayais toujours de dire, écoute, si vous n'êtes pas d'accord, moi, je vais le prendre. Laissez-moi l'argent, je vais, garde, je suis l'ONU. Et forcément, ça ne marchait jamais, mais ça ne m'empêchait pas d'essayer à chaque fois. Et donc, ma grand-mère avait ce côté-là très grand-maman, et le côté aussi très... Elle est abonnée au journal, elle regardait des émissions d'information, et elle était toujours, prête à se révolter un petit peu. Tu vois. Il y avait toujours un petit côté où elle pouvait être outrée par quelque chose qu'elle considérait comme une injustice. Et je me souviens, elle va avoir à peu près 85-88 ans. À un moment donné, on perd le compte. Et quelqu'un lui raconte une anecdote où il y avait quelque chose d'un peu scandaleux. Une personne était victime de quelque chose. Et elle écoute l'anecdote au complet qui doit durer une ou deux minutes. Et quand c'était son tour de réagir, tout ce qu'elle a dit, c'est « crève ». Donc, qui crève. Et c'était, voilà, sa manière de réagir. Très impressionnant. Elle a eu un accident. Elle est tombée de son balcon quand elle était genre assez avancée dans les années... dans sa huitième décennie. Elle avait 80 et des poussières. Et même si ça s'était fracturé plein de choses, elle avait réussi à se remettre suffisamment en forme pour revenir vivre dans sa maison. Et par contre, elle se plaignait un peu. Elle dit, ah, depuis mon accident, j'arrive plus à piler mes patates avec la même force. Oui, c'est assez logique. Quand même, en soi, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Je voulais revenir aujourd'hui dans l'épisode sur l'épisode précédent sur la grossophobie. J'ai lu beaucoup de vos témoignages, les violences médicales. J'ai continué à en recevoir beaucoup pendant le week-end. Et j'ai continué de fouiller, forcément. Et j'ai reçu un article que j'ai trouvé super intéressant. Avant d'en parler... Je voulais juste partager une réflexion et je vais utiliser plein de fois, ceux qui ont écouté le dernier podcast, l'expression « tomber en mode brouillon ». Autrement dit, vous m'écoutez, si vous trouvez que je dis de la merde, je ne pars pas du principe que ce que je dis, c'est du génie. Contactez-moi, on échange et voilà. Et je voulais vous remercier aussi, que ce soit sur Facebook, sur le Patreon, les messages que j'ai reçus. Vous avez été hyper, déjà, généreux de votre temps, de vos anecdotes qui ne sont peut-être pas nécessairement faciles à raconter. Et toutes les réactions, il y avait beaucoup de bienveillance dedans. Et ça, c'était... Déjà, c'est très important pour moi. C'était très joli à voir. Et ça permet de créer le mood que je veux autour de ce podcast-là. Parce que, justement, ce week-end, j'étais en train d'essayer de trouver des manières de le définir. Parce que j'aimerais ça. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup les retours, les échanges. J'ai déjà appris plein de choses. J'ai l'impression de devenir moins con un podcast à la fois, là. Et j'aimerais ça le faire grandir. Donc, je travaillais, mon métier, ça a souvent... je travaillais aussi beaucoup en communication. Je veux dire, en gros, pour des marques, quoi. Faire grandir des marques, faire des événements, faire des... c'est de faire parler de soi. Et donc, je me dis, comment est-ce que je peux expliquer le podcast à des gens qui ne le connaissent pas? Parce que la prémisse de base, l'idée de base, c'était quand même de ne pas avoir de ligne éditoriale, de juste parler à chaque fois de quelque chose que je trouve intéressant. Le problème, c'est que je ne peux pas mettre sur Internet, pour des gens qui ne connaissent pas le podcast, quelqu'un que tu ne connais pas va parler de sujet parce qu'il trouve ça intéressant. C'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. Donc, je me pose des questions sur comment essayer de le présenter. Et je voulais vous poser la question. Si vous découvrez le podcast maintenant, c'est le premier épisode, ou si vous suivez depuis le début, comment est-ce que vous en parleriez à quelqu'un? Si vous avez envie, évidemment, si vous écoutez, juste vous accompagner pendant que vous faites du jogging, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais si vous aimez bien, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous aimez bien? Ça va me permettre, moi aussi, de définir un peu plus mes sujets, de choisir un peu vers quoi je vais. Est-ce que raconter des histoires, c'est bien? Est-ce que des témoignages, des anecdotes de quand j'étais plus petit, des choses qui m'intéressent, est-ce que des choses qui m'énervent, des choses qui vous énervent, je ne sais pas. J'ai un endroit où je peux enregistrer des conversations, mais j'aime autant faire en sorte que ce soit le plus utile possible. Voilà. En gros, je ne veux pas que ce soit chiant, quoi. Donc, si vous pouvez m'aider là-dedans, ça me ferait bien plaisir. Donc, je reviens à ce que je disais sur le mode brouillon. J'ai donc beaucoup réfléchi à grossophobie, violence médicale, forcément. Moi, j'ai découvert ça et j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui vivaient avec ça depuis des années. Et bizarrement, même quand c'est des causes qui sont justes, et là, c'est quand même assez juste, genre, j'aimerais ça être soigné et pas infantilisé, même si je suis gros. En soi, c'est difficile d'être contre la vertu ou être contre cette phrase-là. Mais c'est toujours une bataille d'opinion publique. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas le sujet numéro un en ce moment? Tout coronavirus à part, évidemment. C'est de la promotion. C'est de la promotion des idées. C'est toujours d'arriver à ce qu'on appelle, donc en anglais, tipping point, donc un point de bascule, pardon. Toujours arriver à un point de bascule où il y a assez de gens qui considèrent que c'est important. C'est assez rentré dans la conversation publique pour que les choses changent. Les choses ne changent pas quand le problème survient. Les choses changent quand cette personne trouve ça inacceptable et inadmissible que la façon dont on fait les choses maintenant se poursuive. Le meilleur exemple pour ça, ça demeure quand même le mouvement MeToo. Je crois qu'il n'y a aucune femme au monde qui a été surprise de voir l'étendue du problème. Je crois qu'énormément d'hommes étaient au courant du problème aussi. Mais il a quand même fallu, pas un déclencheur, mais plusieurs déclencheurs. Et ça a remonté dans la hiérarchie des conversations publiques jusqu'à ce que, OK, c'est là-dessus qu'on focalise notre attention. C'est là-dessus qu'il y a la pression. Et à ce moment-là, toutes les histoires qui n'étaient pas, entre guillemets, évidemment, assez intéressantes pour être discutées en public, le deviennent. En gros, n'importe quelle situation dans l'actualité, tu as une grosse information. Le 11 septembre 2001. Boom. Tu sais que le lendemain, tout ce qui a un lien de près ou de loin avec le 11 septembre 2001 va avoir sa place dans le journal. Même principe. Et venant de l'humour, ce qui m'a marqué beaucoup aussi dans cette histoire-là du MeToo, c'était comment est-ce que l'histoire de Bill Cosby, donc humoriste américain qui avait fait le Cosby Show, qui était soupçonné d'avoir violé, mais des dizaines de personnes, principalement, mais pas que, dans les années 70, 70 et donc 80. C'était une rumeur qui était connue par énormément de personnes et bizarrement, et là vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de voir l'histoire, là, mais c'est un autre humoriste, Hannibal Buress, qui en a parlé dans son show, en live, devant un public. Il y a des gens qui ont filmé ça, et à la base, c'était une information qui ressemblait beaucoup plus à « Oh, un humoriste est en train de décer Bill Cosby. » Bill Cosby, directement sur l'attaque, continue de faire des shows, les gens continuent de le soutenir, ses fans, ses shows continuent d'être remplis, les gens continuent de le booker, et ça a été quand une fille, deux filles, trois filles, quatre, cinq, six, sept, dix personnes, il y a tellement de gens qui sont sortis du bois que tu dis, ça ressemble de moins en moins à des rumeurs et de plus en plus à un pattern. Après ça, évidemment, toutes les autres histoires de MeToo ensemble, tout ça a fait en sorte que c'était plus possible d'ignorer. Et ce qui me fascine là-dedans, dans ces trucs-là, c'est que je me dis toujours, quelle va être la prochaine chose qu'on sait déjà qui existe et qui est inacceptable, qui va devenir médiatiquement inacceptable, socialement inacceptable. Genre, faire du blackface. Je sais bien que c'était pas génial pendant des années, puis il y a eu un point de bascule où c'était plus acceptable. L'exemple que moi, j'ai souvent en tête, c'est celui des vêtements. On sait que les vêtements qu'on porte ou que les téléphones qu'on utilise, pour beaucoup de grandes marques, là, évidemment, on sait que ça vient avec l'exploitation de gens qui sont dans d'autres pays. On le sait. C'est pas une surprise, c'est assez bien documenté. On le sait. Mais c'est encore socialement acceptable de le faire. Quel sera le point de bascule pour que ce soit plus le cas? Et tu peux dire, oui, mais c'est pas évident. Mais non, dans 15, 20, 30, 40, 50 ans, ou peu importe, ça va être difficile de justifier qu'on le faisait. Tu fais, oui, mais donc tu savais qu'il y avait des gens qui étaient exploités, puis t'achetais quand même les vêtements? Oui, pourquoi? Parce que j'avais pas de chemise verte et celle-là était moins chère. Oui, mais tu sais que si elle était moins chère, c'est parce que des gens étaient exploités. Fait, oui. Et pourquoi tu le faisais quand même? Non, c'est parce qu'elle était vraiment moins chère. Et c'est sûr que ça va être difficile de se... Difficile. Ils ne sont pas justifiables. Mais on est encore dans le moment où on le sait, mais ça passe. Et j'avais lu un livre super intéressant qui racontait l'histoire de Rosa Parks. Donc, la fille qui avait refusé de s'asseoir en arrière de l'autobus et celle par qui le mouvement civil des Noirs américains a été déclenché. Et je me demande si c'est pas dans le livre Contagious, Why Some Stories Stick ou Why Some Stories Catch On, un truc comme ça. Je pourrais vérifier, ou si vous connaissez la réponse, dites-moi. Et il expliquait qu'il avait fallu 3 grandes étapes avant que le mouvement devienne généralisé. Parce que des gens qui avaient refusé de s'asseoir dans le bus, il y en avait eu plein. De s'asseoir en arrière dans le bus, il y en avait déjà eu plein. Et qu'est-ce qui a fait que cette fois-là, ça a donné quelque chose? Et il explique en gros, l'auteur explique des cercles de pression. Quand c'est plus difficile de continuer socialement, de continuer de faire comme tu faisais avant que de changer, c'est là que tu vas changer. Suite à ce que Rosa Parks avait fait, il y avait eu une grève où il appelait tous les Noirs à refuser de prendre le bus. Et dans les premiers cercles, parce qu'elle était dans plein de cercles d'activités apparemment dans sa communauté, tout le monde s'était un peu appelé, et genre, si t'étais une des personnes qui acceptait de prendre le bus quand même, t'étais hyper mal vu par ta communauté, et donc même si c'était plus chiant d'aller au travail à pied ou quoi que ce soit, les gens acceptaient de le faire. Et comme il y a eu ce mouvement-là, qui a été assez suivi au niveau local, ben, il y a des gens qui en ont parlé, puis ça l'a amené au deuxième cercle. Et c'est là que, c'est au deux ou troisième cercle, je crois que donc Martin Luther King a été approché, et je crois, et je peux me tromper, qu'à la base, il n'y avait pas nécessairement l'intention de reprendre cette histoire-là, mais qu'il y a eu aussi une pression des cercles autour de lui pour dire « Non, non, cette fois-ci, c'est la bonne, ça compte, c'est important. » Et une fois que Martin Luther King était engagé, eh bien là, il y a d'autres personnes qui ont continué de le suivre. Donc, vraiment le switch entre « c'est plus facile de fermer les yeux » à « c'est plus facile de changer et de bouger ». Et donc, on voit là-dedans qu'il y a évidemment un aspect promotion. Et tout ça fait un sens par rapport à ce que je disais sur la grossophobie. Parce que c'est là que je voulais en venir. Ce qui m'a frappé le plus, c'est que je lisais vos témoignages. Tristes, touchants, très impressionnants. Et je me dis, en fait, je crois, et là, c'est la personne qui a fait de la communication qui parle, que le terme grossophobie est pas génial. Je pense que en utilisant le terme grossophobie, il y a plusieurs personnes, à tort ou à raison, c'est pas le point, j'ai mon opinion, mais c'est pas ça le point, qui n'ont pas le même affect et qui n'ont pas la même volonté de s'informer et de faire bouger les choses parce qu'il y a un rejet qui vient avec le terme. Et j'explique pourquoi. Déjà, la simple notion de néologisme, il y a un pourcentage de rejet qui vient avec. Dès que tu inventes un nouveau mot, plusieurs personnes le rejettent. Si vous ne me croyez pas, au Canada, on traduit en français, au Québec, tous les mots, même tout ce qui est technologique, on le traduit. Et si je vous dis qu'au lieu d'un tweet au Québec, on dit un gazouillis, qui est tout à fait exact comme traduction, hein, au final, je suis pas mal convaincu que tous les gens qui nous écoutent en Europe ont semi-souri en attendant qu'on appelle ça un gazouillis. Du junk mail, on appelle ça un pourriel. Pas mal convaincu, encore une fois, que ça vous fait sourire. Hein. Parce qu'il y a cette notion-là de rejet d'un nouveau terme. Et quand tu as un nouveau terme en lien avec une tranche de population qui est victime de quelque chose, il y a un double rejet. Ils inventent un terme pour parler de quelque chose et ils mettent un nom dessus pour que ce soit... Voilà, ça a l'air plus important. Et je ne suis pas psychologue, je ne sais pas pourquoi il y a ce truc-là. Est-ce que les gens ont peur que... Ah, mais toi, t'as inventé un terme pour ta souffrance. Moi, j'en ai aussi. Donc, t'es en train d'essayer de prendre une trop grande part de souffrance et il n'en restera plus assez pour moi. Je ne le sais pas. Mais je me dis, la différence entre dire à quelqu'un, il y a vraiment un problème de grossophobie ici, versus, je vais te raconter une histoire et que tu racontes n'importe lequel des témoignages que vous m'avez écrits et que j'ai vu circuler et que j'ai pu lire ailleurs. L'adhésion à la cause, et c'est vraiment bizarre de parler en termes de marketing, évidemment, mais au final, non, c'est pas du tout bizarre parce que je crois que c'est la seule manière de faire en sorte que l'information se répande, qu'il y ait suffisamment de gens qui pensent la même chose pour que ça devienne difficile socialement de continuer, en gros, de faire chier, quoi. Utiliser des mots qui nous permettent de comprendre très vite. Et donc, oui, il y a toujours un marketing associé aux causes. Et dans ce cas-ci, encore une fois, quand tu vois les anecdotes, impossible de ne pas ressentir de l'empathie. Et surtout de la manière dont vous l'avez fait, je trouve. Dans n'importe quelle situation, et encore une fois, le mouvement MeToo est un bon exemple, où tu dis genre, ah oui, en fait, ça, c'est pas vraiment acceptable. La quantité de gens qui se mettent sur la défensive parce qu'ils pensent à eux avant de penser aux autres est phénoménale. Quand tu avais entendu tous les gens dire comme, oui, mais non, on pourra plus draguer. Si tu peux pas draguer après le mouvement MeToo, c'est que ce que tu faisais avant, c'était pas génial. Et oui, tu peux continuer. Tu peux juste pas être un comté. J'entends souvent, genre, on peut plus rien dire. Ben si, on peut tout dire. On n'a jamais d'ailleurs dit autant de conneries, si tu veux, à mon avis. Mais c'est juste que l'imputabilité est plus grande. Il y a plus de gens qui peuvent réagir à ce que tu dis. Et c'est une excellente nouvelle. Donc, même principe, pour revenir à ce truc-là de grossophobie, c'était ça que je voulais dire sur le marketing. Et plus je lis là-dessus, plus les arguments de base où tu pourrais rejeter ce truc-là en disant comme « Ah, ça va, c'est des gens qui, peu importe ce qu'ils disent, c'est pas génial non plus d'avoir un certain nombre de kilos en trop. Moi, je le dis pour leur santé, pour les problèmes médicaux. » Et on m'a envoyé un article super intéressant. Je crois que c'est de ABC. Je le retrouve en live. Ouais, c'est ABC en Australie. Il dit, pour tous ceux qui disent que c'est à propos de la santé, eh bien, c'est pas si simple. Il y a une organisation en Australie, je traduis en live aussi, hein, qui s'appelle Health at Every Size, donc la santé à tous les poids, qui... travaille sur justement une approche de la santé qui n'a pas de lien avec le poids, mais il y a de lien avec tes habitudes et ton état de santé général. Et ce qu'elle a pu observer, ce qu'elle a pu témoigner des études qu'elle a lues, tu peux être en santé, peu importe ton poids. Et en 2016, il y a une étude qui a montré que les gens qui étaient donc minces, mais pas en forme, avaient deux fois plus de chances d'avoir le diabète que les gens qui étaient gros, mais en forme. Une autre étude de 2012 qui montre que le fait d'être obèse selon le Body Mass Index, là, mais métaboliquement en santé, eh ben, tu n'as pas plus de chances de développer des risques cardiovasculaires, des maladies cardiovasculaires ou du cancer que les gens qui sont considérés comme ayant un poids normal. Par contre, le fait d'être moins bien soigné et aussi le fait d'être stigmatisé peut toujours être pointé du doigt, qu'on te moque et t'es mis dans une catégorie à part. C'est une cause de problèmes de santé chroniques comme la haute pression, l'inflammation dans le corps et un niveau plus élevé de cortisol. Donc, en gros, et ajoute aussi qu'il y a des études qui ont montré que ceux qui étaient en situation de surpoids recevaient des moins bons traitements de santé que les gens qui avaient un poids, entre guillemets, normal. Et donc, quand tu mets ça, tu mets les témoignages, tu mets les informations scientifiques, il me semble que tout est en place pour que ça puisse devenir une des prochaines choses qui préoccupe l'opinion publique générale. Et ce serait chouette que ça arrive. C'est vraiment con un peu de la manière dont je viens de le dire. Là. C'est chouette. Ça, je trouve chouette que des gens arrêtent d'être malheureux parce qu'ils sont stigmatisés depuis le début de leur vie. Donc voilà, désolé pour la formule un peu maladroite, mais ce que je veux dire, c'est encore une fois, avec le mouvement MeToo, on a eu un plan de match de comment est-ce qu'on peut prendre quelque chose qui est inacceptable, mais qui est quand même accepté, et faire bouger les choses. Et je sais que c'est loin d'être parfait. J'ai tous ceux qui disaient « Ouais, mais ça va briser des carrières, les fausses accusations. » Et pour l'instant, moi, je tiens un compteur des carrières brisées, des gens qui ont été accusés à tort. Et pour l'instant, ben, on est toujours à zéro. Mais on ne sait jamais. Si jamais ça arrive, oh, on ne se laissera pas faire. Donc, voyez un peu le principe. Et c'est aussi, je crois, important de raconter, de parler de ces histoires-là, juste pour réaliser une chose, c'est que t'as rien à perdre. Je veux dire, t'as rien à perdre à arrêter de stigmatiser les grosses personnes. Littéralement rien. Il y a aucun inconvénient à arrêter de stigmatiser les grosses personnes. Zéro. Pas un. Tu peux chercher. Il n'y en a pas un. Donc voilà, moi je peux pas faire grand-chose, je veux dire, dans l'absolu. Je peux pas changer le monde du jour au lendemain. Par contre, ça me fait plaisir de continuer d'en parler. J'ai l'intention, comme j'avais dit, j'ai téléchargé donc les livres qu'on m'a conseillés. Je me suis préparé à regarder les documentaires aussi. Tout ça m'intéresse. J'ai l'intention de le faire. Donc, je pourrais en reparler régulièrement. Et je continue de recevoir des histoires. Donc, de temps en temps, on pourra revenir sur la situation. Et je crois que je peux faire ma part en relayant des informations et quand je vois des exemples de grossophobie, en reparler. Et puis, j'aimerais ça trouver un terme ou une façon de l'amener où les gens qui sont pas au courant du problème puissent rapidement se sentir concernés et faire partie de la solution. Donc voilà, si vous avez des suggestions ou encore une fois, même principe, vous trouvez que je dis n'importe quoi, faites-moi savoir. C'est pas grave de dire n'importe quoi si c'est une occasion d'apprendre et que t'arrêtes de dire n'importe quoi après. Je pense. Enfin bref, je voulais pas parler que de ça. Je voulais un tout petit peu parler du projet parce que de ce podcast-ci, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont venus avec les histoires du dernier numéro et qui découvrent un peu. Et donc, comme je disais, j'essaie de mettre le doigt sur comment l'expliquer à des gens qui connaissent pas le projet ou qui me connaissent pas ou qui connaissent pas mes objectifs ou mes goûts. Et j'ai trouvé une chose que j'avais envie de dire à propos de ça. Parce que j'ai reçu 2-3 messages de gens qui me disent « Ah, c'est intéressant ton projet, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu as choisi le podcast? » qui me demandent un peu les détails techniques aussi. Ils me disent « Ah, j'aurais peut-être envie de le faire aussi. » Et « Oh, please, oui, s'il te plaît, fais-le. » Moi, c'est mon fantasme médiatique absolu de voir chaque personne, littéralement chaque personne sur la planète, enregistrer quelques minutes de ses pensées à chaque jour. Très fan de Harry Potter, parce que c'est génial. Et la pensine est une des choses qui m'obsède le plus à vie. Le fait de pouvoir mettre ses pensées dans une petite bassine et que les autres puissent replonger dedans après et les revoir comme s'ils étaient là. Et quand tu combines ça à ma passion médiatique des médias, c'est-à-dire quand une caméra va là où moi je suis pas et je peux voir ce qui se passe depuis mon salon, même chose pour un micro, entendre ce qui se passe là où je suis pas, j'adore. C'est pour ça que j'adore le sport à la télé principalement, parce que c'est de la magie ultime. De chez moi, je peux voir ce qui se passe ailleurs. On prend ça pour acquis parce que ça fait longtemps, mais c'est incroyable. Les fictions, c'est super quoi que ce soit, mais les événements en live, je trouve ça magique. Vraiment, je trouve ça magique. Et moi, j'essaie d'enregistrer donc ce qu'il y a dans ma tête à tous les jours. C'est comme si on mettait vraiment un petit micro dans mon cerveau. Et tu peux savoir ce qu'une personne pense. Et je sais que beaucoup sont bloqués en disant « Mais ce que je pense, tout le monde s'en fout. » C'est pas vrai. C'est totalement faux. Exemple. Si tu vas dans un bar, vous vous souvenez, à l'époque, tu vas commander un verre. Et il y a deux personnes à côté de toi, puis il y en a une qui dit à l'autre « Tu sais pas ce que Marie a dit au bureau quand elle est revenue de vacances. Non? Elle est partie avec le boss, tu sais. Hein? Et il devait rester 2 semaines. Hein? Tu sais qu'il est encore là-bas. Fait, ah non, pourquoi? Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous cassez? Ou est-ce qu'à ce moment-là, vous attendez quelques secondes de plus parce que vous voulez savoir la fin de l'histoire? La magie de l'être humain, c'est qu'il y a une chose de l'enfance qu'on ne perd jamais. C'est l'amour pour les histoires. Le type d'histoire, la façon de la raconter, ça change. Tout le monde aime les histoires. Tout le monde, même si tu ne connais pas les personnages, t'aimes les histoires. Un film où quelqu'un meurt au début, tu ne l'arrêtes pas avant de savoir qui est mort à la fin. Ou tu avances, il est vraiment nul pour au moins avoir la réponse. Dans le storytelling, ils appellent ça créer des « gaps of knowledge », donc vraiment des écarts. Donc, tu poses une question et la réponse doit être un tout petit peu plus loin, mais pas trop. Et ce petit écart-là, c'est ce qui fait, en gros, que tu poursuis l'écoute de ce que tu fais parce que tu es curieux et tu veux aller jusqu'au prochain. Et donc, les bons raconteurs d'histoire vont créer une question, puis une deuxième question, vont répondre à la première, poser une troisième question, répondre à la deuxième, poser une quatrième question. Et donc, ils embriquent ça les uns dans les autres. Comme ça, tu es toujours en train de tourner les pages et, parce que tu veux la réponse à la nouvelle question qu'on t'a posée. Donc, toutes les histoires peuvent être intéressantes. À partir du moment où elles sont sincères, racontées de manière généreuse et avec passion, toutes les histoires peuvent être intéressantes. J'ai fait énormément d'interviews dans ma vie. Et ce que je préférais entendre à la fin d'une interview, que j'ai interviewé quelqu'un, je demandais toujours « Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Est-ce que tu es content? Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Est-ce que tu es contente? » Et quand on me répondait « Oui, oui, pour moi, c'était chouette, mais je ne sais pas si ça va intéresser les gens. » Je savais que ça allait être une excellente interview. Parce que le fait que la personne se dise « Moi, je me suis amusé. Je ne sais pas si ça va intéresser les autres. » Et l'indicateur que la personne a été sincère, a été naturelle, a été elle-même. Et ça, ça va toujours intéresser. Donc oui, si vous avez envie de le faire, faites-le, parce que t'imagines si tout le monde le faisait, tu pourrais, peu importe quand tu vois quelqu'un, aller cliquer sur sa tête et savoir ce que cette personne-là pense. Et c'est pour ça que l'audio, c'est du génie. L'audio, c'est ce qui touche le plus l'imaginaire. Plus que l'image, plus que l'écrit, à mon avis personnel. Et c'est ça qui crée le plus d'intimité. Littéralement, je suis collé à votre tête. J'imagine que vous écoutez ça avec un casque. Vous m'entendez mieux que quoi que ce soit d'autre qui est autour de vous quand vous avez un casque. Je suis littéralement dans votre tête. Et moi, je suis collé. Souvent, quand je fais mes podcasts, j'ai les yeux fermés. Ça va être un problème, d'ailleurs, quand ça va finalement être filmé, là. Mais j'ai les yeux fermés parce que j'essaie de voir ce que je vous raconte. J'essaie de vous imaginer aussi. Et voilà, c'est ça pour moi, le projet. C'est cliquer sur une personne et pouvoir aller te promener dans sa tête. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, s'il y a des choses que vous voulez parler, des questions que vous avez, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir d'aller là où vous voulez que j'aille, en gros, dans ma tête. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Si jamais vous faites un podcast comme ça. Tenez-moi au courant, je vais l'écouter, c'est certain. Ça va me faire plaisir d'ailleurs. Et si vous avez des questions en disant j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment faire, est-ce que c'est cher? Non, ça, c'est un petit investissement pour le micro. Si vous avez déjà un ordinateur, c'est tout. Le reste, tout peut être gratuit. Donc si ça vous intéresse, faites-moi signe. Ça va me faire plaisir de vous guider là-dedans. Puis je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Podcast Addict, Spotify et sur le Patreon, évidemment, encore une fois, donc www.patreon.com. C'est là que vous pouvez payer. Vous pouvez m'insulter puis me payer, puis ça compte quand même. Donc, il faut juste m'encourager. Mais c'est là qu'il y a les trucs parce que toutes les features qui vont arriver, donc les vidéos, les bonus. Je suis en train de me dire si je ne ferais pas quelques petits épisodes spéciaux et bonus pour faire des entrevues, justement. C'est sur un sujet, quelque chose de vraiment intéressant. Prendre quelqu'un, petite entrevue d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et mettre ça comme épisode bonus. Tout ça, ce sera évidemment sur le Patreon. Et merci beaucoup à tous ceux qui y sont déjà. Et évidemment, ça me touche beaucoup. Ça me permet de faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire parler, et le combiner avec la deuxième chose que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire l'argent. Donc voilà. Parler pour de l'argent, c'est génial. Merci. Bisous. Bye-bye.